Radio Okapi.
Le journal Blaise Jordan Shindani Kambala.
Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Au sommaire de ce journal, la ministre des Affaires étrangères a présenté hier devant les députés nationaux la situation des Congolais vivant en Afrique du Sud. Selon la ministre, les incidents les plus graves ont été enregistrés les 5 et les 6 mai dans la ville de Durban où plusieurs résidences occupées par les ressortissants étrangers ont été ciblées. Selon ce membre du gouvernement, les dispositions sont prises pour protéger les compatriotes. En attendant l'examen de la proposition de loi Pandangila, déposée il y a de cela 6 mois à l'Assemblée nationale, son auteur a trouvé bon de la vulgariser déjà en organisant un concours national interuniversitaire pour ressortir l'université qui peut donner les meilleurs projets qui exploitent réellement l'une des ressources de la RDC localement. L'invité de ce journal est Christian Mwando, député national élu de Moba dans la province du Tanganyika et président du groupe parlementaire Ensemble pour la République à l'Assemblée nationale. Avec lui, nous revenons sur la récente sortie médiatique du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Encore une fois, bonjour mesdames, bonjour messieurs. La situation des ressortissants congolais vivant en Afrique du Sud a de nouveau été évoquée à la plénière de ce vendredi à l'Assemblée nationale. Intervenant devant les députés, la ministre d'État en charge des Affaires étrangères, Thérèse Kayikwamba-Wagner, a présenté l'état de la situation marquée depuis plusieurs semaines par une recrudescence d'actes de xénophobie dans plusieurs provinces sud-africaines, notamment les KwaZulu-Natal, les Gauteng et les Caps occidentales. Selon la ministre, des incidents les plus graves ont été enregistrés les 5 et les 6 mai dans la ville de Durban, où plusieurs résidences occupées par des ressortissants étrangers ont été ciblées. Face à cette situation, le gouvernement congolais affirme avoir renforcé les dispositifs de veille, d'assistance consulaire et de coordination communautaire à travers son ambassade à Pretoria afin de protéger les compatriotes. On écoute Thérèse Kayikwamba Wagner au micro de Grace Hamzati.
Cette situation intervient dans un contexte socio-économique tendu en Afrique du Sud, marqué notamment par un chômage élevé, des tensions sociales persistantes, l'instrumentalisation croissante de la question migratoire, ainsi qu'une montée de discours populistes et xénophobes, notamment sur les réseaux sociaux et certaines plateformes communautaires. À ce jour, plusieurs cas impliquant des ressortissants congolais ont été officiellement recensés par notre ambassade. Certains compatriotes ont été grièvement blessés, d'autres ont subi des pertes importantes de biens ou ont dû quitter temporairement leur lieu de résidence pour des raisons de sécurité. Des cas documentés concernent notamment une résidence congolaise entièrement saccagée à Durban South, plusieurs compatriotes agressés, ainsi que des victimes ayant nécessité une prise en charge médicale urgente. Outre les violences physiques, plusieurs compatriotes vivent aujourd'hui dans un climat d'insécurité et une forte détresse psychologique. À ce stade, aucun décès de ressortissants congolais n'a heureusement été enregistré.
Par ailleurs, l'ONG Action pour la promotion rurale à Pru s'active pour les rapatriements à Kinshasa d'une dizaine d'enfants congolais kidnappés et se trouvant en République centrafricaine. Une opération menée avec le soutien de l'ambassadeur de la RDC à Bangui. Parmi ces mineurs, deux ont réussi l'exploit de s'échapper des mains des rebelles de la LRA la semaine dernière. En attendant leur retour, tous sont pris en charge dans une famille d'accueil à Djema, dans la préfecture du Haut-Mbomou. Jean-Claude Malitano, coordonnateur de l'ONG APRU, apporte des précisions sur ce dossier. Il a été joint par Jacques Moukonkolé.
Nous, à notre niveau, on est en train de voir maintenant avec le gouvernement centrafricain comment les faire ressortir de ces villages-là, parce que c'est un village qui est occupé par les rebelles, jusqu'à Bangui, et puis à partir de Bangui, les ramener à Kinshasa. Au-delà de ça, au mois de janvier dernier, nous avions réussi à libérer 23 enfants, dont 15 sont des Congolais. Alors ceux-ci, avec le concours de notre ambassadeur qui est basé ici à Bangui, ils seront rapatriés à Kinshasa d'ici le 11 mai pour être profilés et ramenés maintenant à la province du Haut-Uele pour leur prise en charge et leur réinsertion socio-économique. Notre demande auprès de nos autorités congolaises, c'est de donner donner une attention particulière à cette problématique de la LRA parce que pour le moment, plusieurs sources nous confirment qu'ils veulent encore reprendre leurs mésaventures en se liguant avec d'autres groupes rebelles centrafricains et justement à la frontière de Ombomou avec les Bazouélé, Otouélé, ce qui pourrait encore un jour créer du problème sécuritaire au niveau de la République démocratique du Congo.
Un mot sur la santé dans ce journal. Une trentaine de médecins congolais en poste au Kenya depuis plusieurs années n'ont pas obtenu depuis 5 mois le renouvellement de leur licence de travail par le ministère kenyan de la Santé. Selon le président du groupe des médecins congolais œuvrant au Kenya qui livre l'information, la mesure annoncée en janvier par les autorités kenyanes devait pourtant concerner uniquement les médecins étrangers issus des pays non membres de la communauté des États de l'Afrique de l'Est, l'EAC. Georges Maloba rappelle que la RDC fait partie de cette communauté régionale. Il appelle donc les autorités diplomatiques congolaises et kenyanes à intervenir rapidement pour éviter la précarisation de ces médecins. Le docteur Georges Maloba est au téléphone de Richard Junior Kamunga.
En date du 7 janvier, le ministre de la Santé du Kenya avait annoncé que tous les médecins étrangers n'auraient pas à renouveler leur licence pour la pratique de l'année 2026, à l'exception de ceux des États d'Afrique de l'Est. Mais curieusement, à l'heure qu'il est, nous nous retrouvons avec des médecins congolais qui sont sans travail sur le sol kenyan, qui se trouvent confrontés à une situation de blocage prolongé. Quelle est la position de la RDC dans les États d'Afrique de l'Est? Nous faisons partie de cette communauté. La situation actuelle appelle à une mobilisation renforcée des autorités diplomatiques des deux pays. Sans une intervention rapide et coordonnée entre les deux gouvernements, cette situation risque de perdurer, accentuant la précarité socio-professionnelle des médecins congolais au Kenya.
Jusque-là, nos tentatives pour obtenir la réaction du chargé d'affaires de l'ambassade de la RDC au Kenya sont restées sans succès. Chapitre politique à présent. Le parti politique Unité des Valeurs exhorte le gouvernement congolais à renvoyer les migrants refoulés des États-Unis vers leur pays d'origine. Lors d'une conférence de presse tenue vendredi à Kinshasa, son président national Michel Okongolomena a estimé que leur présence en RDC viole l'article 47 du statut de Rome relatif aux migrants. Il a par ailleurs dénoncé plusieurs irrégularités dans l'accord sur les minerais critiques signé entre la RDC et les USA. Ce parti politique rejette également toute révision du code minier, de la loi fiscale et de la constitution congolaise liée à cet accord et annonce avoir déposé une plainte pénale au tribunal pénal international pour le Rwanda TPIR pour crime de guerre contre Paul Kagame qu'il juge responsable de plusieurs morts dans l'est de la RDC. On écoute Michel Okongo, président du parti Unité des Valeurs, au micro de Jean-Marc Matwaki.
Dans cet accord, il y a beaucoup d'anomalies. Un, les représentants du peuple congolais, ça veut dire que les deux chambres des représentants n'ont pas été associés. Les techniciens de la matière, donc je parle du ministère des Mines, n'ont pas été associés. Dans cet accord, vous avez les États-Unis qui nous renvoient et qui nous obligent en quelque sorte à réviser les codes miniers, la loi fiscale et la constitution de la République démocratique du Congo. On nous fait avaler une pilule amère avec l'histoire des migrants. Le Congo n'a pas à faire aux migrants. Les migrants dont on parle ici, ce sont en fait des réfugiés politiques déboutés aux États-Unis, alors que selon l'article 4 ou 14 de la Charte des Nations Unies, normalement tout le monde qui se sent menacé a droit à demander l'asile dans n'importe quel pays. Le troisième point, j'ai dit, nous avons formulé une plainte pénale pour crime de guerre, crime d'agression contre Paul Kagame, parce que aujourd'hui nous déplorons plus de 20 millions de Congolais qui sont massacrés pendant près de 30 ans.
Province du Tanganyika, climat politique tendu dans la ville de Kalemie depuis quelques jours. L'UDPS, Fédération urbaine de Kalemie, demande officiellement le départ du gouverneur du Tanganyika. C'était au cours d'une déclaration politique ce vendredi à Kalemie. L'UDPS reproche au gouverneur Christian Kitungwa, notamment l'insécurité persistante, la dégradation des infrastructures, ainsi que les difficultés liées à l'accès aux services des bases. Signalons que cette prise de position intervient dans dans un contexte marqué par des manifestations de soutien au gouverneur d'une part ou des contestations de l'autorité provinciale d'autre part. Le point avec Paulin Monanga.
Dans sa déclaration, l'UDPS critique la gestion du gouvernement provincial du Tanganyika. Ses partis de la majorité présidentielle dénoncent ce qu'ils qualifient des situations alarmantes dans laquelle la province est plongée. Dans la déclaration lue par Jean Kasongo, porte-parole de l'UDPS, Fédération urbaine de Kalemie, ses partis revient sur les griefs portés contre le gouverneur du Tanganyika.
Les promesses répétées de développement n'ont produit que des illusions. Les faits sont extrêmement indéniables. Les infrastructures routières sont dans un état de la vraiment très avancé, isolant davantage les centres-villes ainsi que plusieurs quartiers et avenues. L'insécurité atteint un niveau extrêmement préoccupant. La population vit dans une peur permanente.
En réaction, le conseil spécial du gouverneur du Tanganyika rejette ces accusations. Selon Abel Amundala, il s'agit de la manipulation politicienne.
Par rapport à la déclaration de l'IDPS, vous allez suivre la déclaration officielle que ceux qui ont qualité d'engager les partis vont faire, c'est ce qu'ils ont dit. Parce que ceux qui ont été utilisés encore par des politiciens en mal de positionnement n'a pas produit d'effet. C'est des gens sans titre ni qualité.
Signalons que des femmes qui demandent le départ du gouverneur ont organisé une marche quelques jours auparavant et par après, une manifestation soutenant le gouverneur a eu lieu toujours à Kalemie. Lubumbashi, Paulin Monanga, Radio Okapi.
La proposition de la loi Pandangila spécifique devant imposer la transformation en RDC de toute substance minérale tirée de son sol a été déposée au Parlement depuis plus de 6 mois maintenant et attend toujours de pouvoir être examinée le moment venu. Mais l'auteur de cette proposition de loi a trouvé bon de la vulgariser déjà en organisant un concours national interuniversitaire pour ressortir l'université qui peut donner les meilleurs projets qui exploitent réellement l'une des ressources de la RDC localement. La première phase de ce concours a eu lieu ce samedi et c'est l'Université officielle de Mbujimayi qui est sortie première parmi 10 universités du pays. Dunamadi Mambaya nous raconte comment.
Le concours de ce vendredi a commencé directement à l'étape des demi-finales et a opposé 10 universités de la RDC entre elles. C'était la Haute École des Mines, l'Université de Kinshasa, l'Université protestante au Congo, l'Université de Lubumbashi, l'Université de Kolwezi, l'Université Congo, l'Université du Kasai, l'Université de Kananga et l'Université officielle de Mbujimayi. L'objectif était que chaque université, en 10 minutes, présente un projet réalisable qui montre comment une entreprise congolaise peut transformer localement une des ressources minières tirées du sous-sol de la RDC. Un jury des professeurs d'université, éducateurs et autres experts a été constitué, des critères présentés parmi lesquels la conviction dans la présentation, la rigueur du projet et son caractère réaliste. Et à cet exercice, c'est l'université officielle de Mbujimayi qui a été sacrée en tête par la délibération du jury. Cette université du Kasaï oriental a présenté un projet de transformation du diamant industriel en matériel de coupe dans le domaine de la construction et à partir d'un budget réaliste ne dépassant pas 200 000 $ américains.
La finale de ce concours aura lieu après la deuxième demi-finale qui opposera au mois d'août de cette année les autres universités de la RDC qui n'ont pas participé à la première demi-finale de vendredi. Une institution mutualiste de Bukavu au sud Kivu vient de s'installer à Kinshasa à cause de la situation sécuritaire instable à l'est de la RDC. La nouvelle agence de la coopérative d'épargne et de crédit, Chai, a officiellement ouvert ses portes ce samedi dans la capitale. Selon son directeur gérant, c'est pour accompagner en particulier ses membres qui ont fui la guerre et les Congolais en général dans les services de proximité, notamment l'épargne, le crédit et l'éducation financière. Patient Choya est au micro de Jean-Désiré Kanyama.
Vous connaissez la situation sécuritaire qui prévaut à l'Est depuis le début de l'année 2025. Toutes les institutions de Bukavu et de Goma sont fermées. Ainsi maintenant, le conseil d'administration a décidé d'ouvrir une agence dans une zone où il y a plus de sécurité. La grande institution mutualiste en RDC doit avoir quand même une agence à Kinshasa pour s'approcher de tout toutes les autorités, aussi de la communauté. Vous savez qu'il y a beaucoup de membres de la COPEC Tchaï qui n'ont pas souhaité collaborer avec le rebelle. Et donc, il fallait que leurs institutions viennent les accompagner pour les services de proximité, pour l'épargne et les crédits. Nous les invitons à s'approcher de notre agence. Nous sommes une coopérative pour soutenir l'inclusion financière. Nous devons approcher tout le monde. Et donc, nous appelons les MPME, nous appelons les jeunes, nous appelons les femmes. J'insiste beaucoup sur les femmes, l'accompagnement des femmes. Vous savez que les femmes soutiennent l'économie nationale.
Notez que l'ouverture de cette agence de Kinshasa a coïncidé avec les 50 années d'existence de la coopérative d'épargne et de crédit Tchaï. Le handicap ne devrait jamais être un frein lorsque des conditions d'une véritable inclusion sociale et professionnelle sont réunies. C'est dans cet esprit que l'association Voir avec le cœur AVC a lancé ce vendredi 8 mai une formation en informatique adaptée destinée aux personnes malvoyantes. Cette session vise à offrir aux participants les compétences nécessaires pour gagner en autonomie et faciliter leur intégration dans la société. Mais l'initiative fait face à des difficultés financières. John Tiboabois pour plus de détails.
Les apprenants manipulent les claviers dans une salle équipée d'ordinateurs guidés par un logiciel vocal. Une technologie qui leur permet de naviguer sans voir l'écran. Brave Kamulongo, l'un des participants, revient sur ce qu'il a appris lors de la première séance.
Nous avons appris la partie de l'ordinateur, y compris ses composants comme hardware et software, l'écran, l'unité centrale, y compris la souris.
Marcel Dionga, formateur et lui-même malvoyant, insiste sur l'importance de cette formation.
Cette formation permet de les rendre autonomes du point de vue socio-professionnel parce que une fois que la personne non-voyante arrive à utiliser l'ordinateur, sera à mesure de travailler partout.
Face aux difficultés financières que traverse l'association, le coordonnateur de l'AVC, Flavien Makaya, lance un appel aux autorités ainsi qu'aux personnes de bonne volonté.
Nous demandons un soutien des autorités, un soutien également de la part de toutes les personnes de bonne foi qui peuvent nous venir en aide par rapport au matériel informatique et aussi pour appuyer les formateurs. Tout le monde qui travaille au sein de l'association Voix avec le cœur est bénévole.
Cette formation s'étendra sur 3 mois. Une étape de plus vers une véritable inclusion sociale de personnes malvoyantes.
Actualité internationale.
L'Iran a menacé de s'en prendre à des sites appartenant à Washington au Moyen-Orient en cas d'attaque de sa marine marchande après des frappes américaines contre 2 de ses pétroliers et alors que les États-Unis attendent toujours la réponse de Téhéran à leur dernière proposition.
L'invité.
Notre invité est l'opposant Christian Mwando, député national élu de Moba dans la province du Tanganyika et président du groupe parlementaire Ensemble pour la République à l'Assemblée nationale. Avec lui, nous revenons sur la récente sortie médiatique du président Félix-Antoine Tshisekedi, notamment sur les questions sécuritaires liées à la guerre dans l'est du pays, mais aussi sur les enjeux politiques autour d'un éventuel troisième mandat, de la révision de la Constitution et de la tenue des élections de 2028. Christian Mwando s'entretient avec Grace Hamzati.
Christian Mwando, bonjour.
Bonjour, monsieur Grace Hamzati.
L'opposition critique régulièrement la gestion sécuritaire du pouvoir. Après les déclarations du président Félix Tshisekedi, quelle alternative proposez-vous concrètement pour mettre fin à la guerre dans l'est du pays?
Nous considérons d'abord, un, qu'il faut mettre un terme aux querelles internes et rassembler tous les Congolais autour d'une table pour que tous nous regardions dans la même direction, étant bien entendu que aucun peuple divisé n'a jamais gagné une guerre. Donc c'est pour ça que nous demandons en priorité un dialogue inclusif qui permet d'enlever le prétexte de la guerre civile et permettre en même temps de régler les questions de gouvernance, peut-être les questions de fonctionnement des services de sécurité, les problèmes de corruption qui ne permettent pas d'avancer en termes d'utilisation du budget de l'État et qui permettent à certaines personnes de trahir le pays. Deuxième étape, nous devons également faire en sorte que, au niveau extérieur, notre diplomatie, qui engrange quelques résultats, puisse être suffisamment efficace que pour décourager les forces qui agressent le pays ou qui appuient la rébellion, en même temps, important permettre que les résolutions, notamment la résolution 2773, qui fixe les objectifs de paix et qui demande à tout pays agresseur de quitter le territoire, de pouvoir s'appliquer. Et troisièmement, et c'est incontournable, renforcer notre dispositif militaire, notre armée, et faire monter notre armée en puissance, parce que aucun pays qui n'a pas une armée forte ne peut être craint et ne peut vivre en paix.
Le chef de l'État affirme qu'il pourrait accepter un troisième mandat si les peuples le lui demandaient. Considérez-vous cette déclaration comme une simple position politique ou comme une volonté de contourner la Constitution?
Le fait pour le chef de l'État de dire qu'il pourrait accepter un troisième mandat si le peuple lui demande est une simple stratégie pour contourner la Constitution. Le peuple va demander un troisième mandat par quelle voie? Est-ce qu'on va susciter deux, trois personnes qui signent, comme il y a beaucoup de flatteurs, beaucoup des gens qui font de l'encensement vis-à-vis du chef de l'État, que ce sont ces gens-là qui vont représenter le peuple? Ou bien allons-nous respecter notre constitution, parce que vous savez très bien que nous avons fait cette constitution à la suite d'une longue guerre interne qui a divisé le pays. Le pays était divisé en quatre. Et parmi les causes qui ont été épinglées comme les causes de ces guerres, c'est le fait que les chefs d'État se sont éternisés au pouvoir, notamment Mobutu qui a fait 32 ans. Et il faudrait que cette affaire se termine. Aujourd'hui, pour permettre qu'une démocratie vive, que les gens ne pensent pas à recourir aux armes pour prendre le pouvoir, il faut respecter l'alternance, il faut respecter le cadre verrouillé par l'article 220. Monsieur Tshisekedi aura fait dans 2 ans ses 10 ans, il est temps qu'il parte et ne pas trouver de faux prétextes pour se maintenir éternellement au pouvoir. Il n'y a pas d'homme providentiel. Il n'est pas seul à pouvoir faire ce travail-là, et qu'il le fait par ailleurs pas très bien. C'est la possibilité à laisser à tous les autres Congolais pour qu'on puisse compétir librement, conformément à notre constitution.
Le débat sur une possible révision constitutionnelle refait surface. Pour l'opposition, quelles seraient les lignes rouges à ne pas franchir dans ces dossiers?
L'opposition ne va accepter aucune révision de la Constitution, parce que toute révision de la Constitution, comme ça s'est fait dans beaucoup de pays, va aboutir à dire que la Constitution a changé et que Tshisekedi a droit encore à revenir, à repostuler. Or, vous savez très bien que, quel que soit ce qui va être fait, référendum ou quoi, avec la CENI à la botte du président en place, le résultat sera le même. Donc, notre ligne rouge, c'est ne pas toucher à la Constitution, quelle qu'en soit la situation. 2028, c'est clair que M. Tshisekedi doit céder le tablier et partir. Au cas où le président n'accepte pas de céder le fauteuil comme l'exige la Constitution, eh ben, il aura à affronter la volonté populaire et l'opposition va se mobiliser dans les jours à venir pour faire barrage à toute velléité de se maintenir illégalement au pouvoir.
Christian Mwando, je vous remercie.
Merci, monsieur Hamzad.
Voilà qui met fin à ce journal du matin, coordonné et supervisé par Jude Mister Bilandan Kumar et mis en onde par Jean-Claude Salamwana Makengonsalo. Ce journal est à réécouter sur notre site internet www.radiocapi.net.